pour ne pas gêner vos voisins, nous prions nos auditeurs de régler le niveau sonore de leur casque au minimum nécessaire à une bonne écoute.
Oui, bonjour Monsieur Hazard, c'est Adèle Imbert.
Oui, bonjour.
C'est très gentil de prendre un peu de temps. Est-ce que ça vous convient maintenant?
Oui, il n'y a pas de problème.
Alors,
problème.
J'enregistre l'appel comme ça, ça me permettra d'utiliser
Après,
cette matière-là.
Vous ferez le tri.
Voilà, merci.
Au milieu des États-Unis, je pouvais voir dans mon champ de vue, dans un même champ de vue, en regardant à gauche, puis en le basculant ma tête vers la droite, je pouvais voir la Californie et la côte Est. Alors que dans mes vols précédents, je ne pouvais pas voir les deux à la fois. Il fallait attendre un petit peu après avoir perdu de vue la Californie pour commencer à voir la Floride ou New York, etc. Donc la Terre, c'est vraiment une boule qui est finie. Vous voyez qu'elle est finie et qu'elle est isolée dans le noir vide à l'infini du cosmos. La première impression, c'est qu'il n'y a rien d'autre, à part le Soleil et la Lune et la Terre. Donc on a du mal à penser qu'il y a d'autres personnes peut-être dans l'univers ou qu'il y a même autre chose. Et cette sensation de voir l'infini, le noir obscur, et en plus, comme on va très vite, le contenu du champ de vue change très vite. En quelques dizaines de secondes, vous passez des glaciers de l'Himalaya aux atolls turquoises de Polynésie, aux grandes forêts tropicales du Brésil, au désert de l'Afrique. Et c'est très émouvant parce que c'est beau, parce que c'est contrasté, c'est coloré, parce que la Terre, c'est émouvant à la fois parce que la Terre apparaît comme un être vivant. Elle a sa propre vie géologique, climatique, tectonique. Quand vous voyez les volcans, ben vous voyez qu'elle a sa vie tectonique. Quand vous voyez des impacts de cratères datant d'il y a des centaines de millions d'années, vous voyez qu'elle a une vie cosmique. Elle a une vie dans le cosmos où elle est soumise parfois à des impacts d'astéroïdes. Quand vous voyez des ouragans, ben vous voyez qu'elle a sa propre vie climatique. Donc on a conscience qu'elle nous survivra. C'est pour ça que moi j'aime pas dire que la Terre est fragile. C'est nous qui sommes fragiles. C'est le vivant qu'elle abrite en ce moment qui est fragile.
La marche pour le climat continue et le groupe associatif On veut pas mourir porte plainte contre l'État pour mise en risque de demeure sur les êtres vivants et non-assistance à personne en danger d'extinction. L'État, quant à lui, porte plainte contre le climat pour refus d'obtempérer. Le gouvernement mettra en place la création de plus de 372 000 pistolets flashball afin de lutter efficacement contre les problèmes climatiques. D'après le sondage Gripsos, 85% des Français se sentent rassurés.
On n'a pas besoin de parti politique. C'est-à-dire, on se lève le matin, pendant notre journée, on respire, on boit de l'eau et on mange minimum 3 fois. Et je pense que le plus grand acte politique qu'on peut faire les uns et les autres, c'est en prenant conscience de notre propre alimentation. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une influence directe sur le monde de l'agriculture. On l'a vu dans toutes les révolutions dans ce monde, quand ça se lève, c'est bien. Quand le peuple se lève, je veux dire, avec une volonté de faire changer les choses, on fait trembler tout le monde.
Ouais.
Plus tard, Pardot se retrouve donc devant le jury. Et pendant que l'avocat de Pardot plaide la folie, logiquement, eh bien Manuel Pardot annonce qu'il a commis ses actions pour, je cite, « nettoyer la ville de ses parasites ». Il déclare même être déçu d'avoir tué si peu de ses parasites et il déclare aussi avoir pris du plaisir à les tuer, car il n'avait pas le droit de vivre. Quelqu'un devait s'occuper de tuer ces personnes. Manuel Pardot annonce qu'il était heureux de le faire.
Chaque corps repose proprement sur un duvet et toutes les lampes de la maison sont allumées. Le système stéréo diffuse de la musique religieuse en boucle à travers les pièces. Mais le décompte macabre ne s'arrête pas là. Les enquêteurs découvrent rapidement une longue lettre de 5 pages destinée au pasteur de la congrégation luthérienne locale. Cette lettre les lance à la recherche de la dépouille d'Alma List, 84 ans, la mère de John, qui n'était pas couchée avec les autres victimes, et dont ils retrouvent le corps fourré dans un placard du 3e étage, comme indiqué, car Elle était trop lourde pour être descendue à côté des autres, écrit John List.
Pour moi, j'étais encore vivant, donc j'essayais de leur montrer un signe que j'étais là, mais je n'arrivais pas à bouger, ni à respirer, ni à rien du tout. La chef de l'hélicoptère a dit à son assistant, bon, mais c'est fini, il est mort, on le met dans le sac, il faut le mener à la morgue. Donc quand ils m'ont mené à la morgue, j'étais enfermé dans le sac jaune où ils enferment malheureusement les gens décédés. Donc ce sac est effrayant, est très serré, très épais, c'est un vulgaire sac de poubelle quoi, en gros. Donc pour aller jusqu'à l'hôpital, ils m'ont mis sur un brancard, ils m'ont descendu au sous-sol à la morgue, et quand ils m'ont soulevé du brancard, qu'ils m'ont mis dans le casier, au moment de fermer le casier, je me suis dit que si à ce moment-là je ne montrais pas quelque chose, ben, c'était fini pour moi.
Moi, je dis souvent pour expliquer aux gens, faut me voir comme une radio ou comme un téléphone.
C'est simple, vu comme ça.
Voilà, c'est exactement ça. Et donc moi, ce qui me concerne, c'est une médiumnité auditive.
C'est-à-dire ?
Donc je vais entendre des personnes qui sont décédées.
C'est passionnant, mais on va prendre un petit peu le temps de comprendre comment tout ça est possible et comment vous le vivez, vous, en tant que médium et thérapeute, et puis en tant que femme, tout simplement. Alors, je ne peux pas passer à côté de cette question, donc on va l'évacuer tout de suite, mais comment est-il possible de communiquer avec les morts ?
Alors, moi, pour moi, il n'y a rien de magique. C'est une prédisposition, une faculté que certaines personnes ont et qui la développent ou qui ne la développent pas, d'ailleurs.
Voilà, un jour, c'est arrivé, un dimanche soir. Ils ont vu que j'étais très affecté. On était d'ailleurs coéquipiers avec Niki Loda.
Chez McLaren, c'est ça?
Chez McLaren. Il dit, bon, ben, viens, on est sortis en boîte de nuit un soir, après dîner. Il dit, bon, maintenant, tu bois un whisky et tu fumes une cigarette. Et un whisky, deux whisky, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, après, à la fin de la soirée, ou demain matin, enfin, tu oublies ce qui s'est passé et tu penses à autre chose.
Ça y est, c'est terminé.
Et moi, j'avais jamais bu. Je crois que j'avais jamais rien bu de ma vie pratiquement. Enfin, à part peut-être un petit verre de rouge et encore. Eh ben, c'est pas le fait de boire, c'est le fait d'être dans un état un peu différent, de pas penser à ce moment-là au négatif. Et alors je dis pas que je l'ai fait tout le temps après, hein. On l'a fait
sinon,
d'autres fois.
Il y avait
fois.
Beaucoup de gueules de bois sur les circuits.
Oui, non, mais c'est pas la peine de boire non plus beaucoup. Mais on l'a fait 2-3 fois parce que c'était presque un rituel quand ça ne marchait pas bien. Mais ça m'a permis surtout de voir les choses d'une manière très très différente.
Alors je sais pas s'il y en a qui parmi vous qui veulent prendre la parole en premier.
On lance pas le jungle.
De quoi ?
On lance pas le jungle.
Il y a un jungle. Allez, jingle débat.
Un tel genre.
C'est vrai qu'à la fin j'avais oublié de dire qu'en fait à la fin on allait voter pour en éliminer un d'entre nous.
Ah merde, ouais, c'est ça. Ce jingle me donne tellement envie de faire un débat. Hein,
voilà,
mais je ne suis pas d'accord, monsieur.
Après avoir reçu le SMS de Joseph Hernandez dans lequel il nous annonçait son refus de nous parler, on a beaucoup réfléchi avec Émilie. Doit-on insister ? A-t-on le droit d'insister ? Ne faut-il pas simplement s'en tenir à son refus ? Parce que M. Hernandez a vécu des choses traumatisantes et son histoire n'appartient qu'à lui. Alors, qui sommes-nous en tant que journalistes pour venir remuer ce passé ? Nous avons finalement décidé de le rappeler une dernière fois, juste pour être fixés. Et il a décroché. Nous n'avons pas enregistré cet appel. Il fallait le rassurer, lui réexpliquer notre démarche et pourquoi il était important pour nous et pour vous, les auditeurs, de comprendre sa version de l'histoire. Il a finalement accepté de nous rencontrer.
Écoute, je vais faire un truc qui est pas professionnel, mais je vais juste dire, j'en ai plein le dos, en fait, quoi. J'en ai marre, en fait, de... Je sais que c'est pas très constructif, c'est pas une vraie critique et tout, mais c'est le premier truc en fait qui me vient à l'esprit. J'en ai plein le dos. Déjà, j'en ai plein le dos parce qu'on se farcit ces trucs-là et on sait que ça va pas être bien et c'est pas bien. Alors après, il faut mesurer le degré de pas bienitude, si j'ose dire, tu vois. Où on se dit, attends, c'est beaucoup plus nul ou c'est un petit peu moins nul, quoi, en fait. Alors là, c'est très très nul, hein.
Fondamentalement, si vous voulez accéder à ces trucs-là, vous devez le faire à partir du component did mount.
Parce que du coup, le seul life cycle de l'ancienne API de React qui est exécuté sur le serveur, c'est le will mount qui est disparu maintenant.
Et le constructeur.
Voilà, c'est constructeur parce que will mount a disparu de la nouvelle API.
Et get derived state from props.
Cette personne s'en sert à part Facebook. Hein,
ouais, non, bon, on en a quelques-uns en prod chez nous.
Ils ont déprécié will receive props, ça l'a remplacé.
Mais bon.
Ouais, exactement.
Mais.
Ouais.
Accélérer plus et ralentir mieux.
Ah, c'est très bien ça, ouais. Ouais, ouais, je pense
accélérer
que c'est
plus,
bien.
Ralentir
ouais.
mieux, très
ouais.
bien.
Ouais.
On était sur accélérer plus et ralentir mieux.
Alors, j'ai du mal à vous entendre, mais pour dire oui, alors, on est sur des termes ralentir, accélérer. Je pense qu'à chaque fois, il faut prendre la balance risque-avantage. Mm-hmm. Voilà. Hein, c'est quelque chose. Il faut savoir prendre des risques, savoir quels sont les accidents que pourraient causer ces risques, et simplement avoir des plans d'action immédiats.
Mmh. Mmh. Donc immédiat plus finalement. Risquer plus. Bien, ça me paraît être pas mal. Hein.
Non, je trouve ça pas mal.
On a un souci de liaison. Hein.
Connecter mieux,
finalement. Ouais.
Au final, c'est ça.
C'est ça la question.
Ouais, connecter mieux. Évidemment. Se rapprocher plus.
Et je ne vous entends plus.
Ah.
Mais tout de suite, place au direct. Raymond Mouvex, vous n'avez toujours pas compris qu'à la radio, on ne voit pas ce que vous faites. Vous êtes en Allemagne, Düsseldorf plus précisément. Que se passe-t-il ?
Oui, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis sur une base allemande. Alors je vais essayer de monter dans ce blindé que vous pouvez voir à côté de moi. Je m'approche, hop, je passe la trappe.
Fort bien Mathieu, serait-il possible de parler à un officier allemand ?
Oui, on va essayer. Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur, je me trouve avec le chef d'état-major Keitel. Alors monsieur Keitel, est-ce que la France doit s'inquiéter de vos préparatifs ?
Ah non, on va rien vous faire, vous les Français, c'est juste entraînement. Votre ligne Maginot nous fait bien trop peur.
Alors je continue à vous faire découvrir ce blindé allemand. Donc on peut voir la radio, la mitrailleuse. Mais attendez monsieur Keitel, excusez-moi, mais sur votre carte il y a une flèche rouge qui passe par la Belgique et qui va vers la France, qu'est-ce que c'est ?
Ah, nein, c'est rien, ça c'est gripouillage.
Si j'ai encore une seconde pour vous raconter la timeline, parce que tout se joue dans la timeline, je vous la fais en raccourci. 16h05, envoi du faux communiqué de presse aux rédactions. 16h06 et 7, respectivement, deux agences de presse anglo-saxonnes. En une et deux minutes, respectivement, ces deux agences vont balancer des titres. On appelle ça des leads, c'est-à-dire des extraits du communiqué. Avant que ce soit suivi d'une dépêche plus consistante. Donc en une et deux minutes respectivement pour l'une et l'autre, des leads sont balancés, et évidemment ça met le feu aux poudres, c'est instantanément repris, et l'action plonge. Il est donc 16h06 et 7. À 16h10, le porte-parole de Vinci, le patron du service de presse, il est dans la salle aujourd'hui, dément. Il est 16h10, donc trois minutes après la publication des leads de la deuxième agence. Et à ce moment-là, l'action commence à remonter. Les autorités de marché, qui sont parfois un peu à contre-temps, on leur en veut pas, suspendent le cours alors qu'il est en train de remonter. Il est 16h15. À 16h19, elles s'aperçoivent de leur erreur et elles reprennent la cotation. L'action continue à remonter. À 16h49, Vinci, ça c'est une formalité, confirme par écrit ce qu'il avait dit par oral. Ça c'est juste la procédure, mais ça change plus rien à la remontée du cours, inexorable et heureusement. 17h15 à 17h30 et quelques, la bourse clôture, l'action s'est recalée à peu près moins 3%, elle avait plongé à moins 18%, hein, 7,5 milliards de capi pour Vinci, ça fait à peu près 18% du cours. Donc elle s'est recalée à moins 3%, tout va bien, 2-3 jours après, elle sera revenue à son cours initial. Donc pour Vinci, le mal d'un point de vue financier ou boursier n'est pas très important, encore que c'est jamais très sympa d'être dans le rôle de la victime, mais au passage, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, et puis d'autres qui en ont gagné.
Au XVIe siècle toujours, la célébrité de Robin des Bois parvient aux oreilles de certains rois. On raconte par exemple qu'en 1509, le roi Henri VIII était passionné des aventures de Robin des Bois et s'amusait à se déguiser en Robin des Bois. Il fit même irruption dans l'alcôve de son épouse Catherine d'Aragon déguisée en Robin des Bois. Alors c'était une blague pour effrayer la reine, avec des danses et avec des jeux.
Et en même temps, en fait, au fil de l'album, t'as cette mélancolie de te dire le monde est en train de tomber en ruine quelque part sur plein d'aspects politiques. Et est-ce que finalement la solution, c'est un peu utopique, mais c'est pas la danse, et c'est le rassemblement des gens autour d'un truc aussi primaire et aussi simple que ça, mais qui concrètement est universel, et qui fait que t'as beau être asiatique, t'as beau être américain, t'as beau être de tous les continents, c'est un truc que tout le monde a sur cette planète. Et c'est presque utopique, mais ça s'incarne réellement dans leur musique, ça s'incarne réellement dans les compositions.
Quand on disait on va passer d'un espace de masse média, on va dire régi par des messages, à un espace conversationnel, ce qui est sûr, je dois le reconnaître aujourd'hui, c'est qu'on avait une utopie de l'espace conversationnel. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire du numérique en 98 et je vais battre ma coulpe, j'ai toujours pensé qu'on allait créer une agora. On a créé une arena.
Donc je pense que mon blog m'a vachement aidé à prendre confiance. Avant, j'étais hyper complexée par mon nez, par exemple. En vidéo, je pense que je me serais touchée 25 fois mon nez depuis le début d'une vidéo, parce que j'étais complexée par mon nez. J'étais aussi complexée par ma petite poitrine, par mes cicatrices. Et je pense que me montrer sur le blog et apprendre à composer avec les critiques négatives, les trolls, en fait, ça m'a vachement fait avancer. Alors, ça a été long, hein. J'ai tenu un blog pendant 12 ans. Enfin, j'ai toujours un blog, mais ça a duré 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie. Et en tout cas, moi, Internet, ça m'a aidé à l'accepter.
Il me dit, ouais, il m'envoie une photo de lui dégueulasse. Et là, j'ai fait, non, on se connaît pas. Je l'ai déjà bloqué plein de fois. Je l'ai rebloqué. À tous les coups, il s'est créé un autre compte. Mais il y a des gens qui sont tarés.
Non, mais le pire, c'est qu'il comprend pas. Le mec, il revient. Ouais, il continue à t'envoyer la même photo.
Il est comme ça, parce qu'une fois il m'avait envoyé sa bite et j'ai dit pourquoi de... parce que j'avais envie, j'ai dit... après il dit je m'excuse et tout, j'ai dit non mais
c'est maman qui a ripé.
Je te lèche encore, j'adore te lécher. Je rends ma langue bien rigide, comme si je bandais de la langue et je viens de goûter. C'est délicieux de caresser avec ma langue tout ce que tu caches entre tes jambes.
Et il s'est mis à ramper vers le bas de mon corps. Il a mis sa tête entre mes jambes et il s'est mis à me lécher. Ce que le père Marie-Dominique n'avait jamais fait ça. Personne ne m'avait jamais fait ça. Et puis après ça, il m'a dit, écoute, ce que nous venons de faire, alors ce sont les grâces que Jésus et Marie se donnaient mutuellement pendant leur vie terrestre. Et puis n'en parle pas au père Marie-Dominique, vaut mieux pas, parce qu'il risquerait de trouver que je vais un peu trop loin.
Vous n'avez jamais eu peur de tomber enceinte de...
Ah ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de risques dans la mesure où tout se terminait dans ma bouche. Voilà. C'était leur manière à eux, à ces bons pères, de pratiquer une contraception que l'Église n'avait pas prévu d'interdire, je pense.
Non, t'es chiant, dis-moi, c'est quoi le pegging ?
Le pegging, c'est quand une femme sodomise un mec à l'aide d'un objet spécialement conçu pour. Genre un god, quoi.
Nos invités d'aujourd'hui possèdent tous un objet absolument surprenant.
Mais y'a personne qui fait ça, c'est 4 mecs et demi qui font ça.
Mais non, c'est pas 4 mecs et demi, c'est juste que c'est tabou. Les mecs en parlent pas, mais c'est ultra répandu. Redescends. Et tu sais pourquoi ils le font, fais pas l'ignorant. Ton point G, il est pas sur ta bite, il est au niveau de ta prostate, dans ton cul.
Quoi ? Mon point G, il est là ?
L'hétéronormativité, c'est vraiment calamiteux, hein. Si tu connais même pas l'emplacement de ton point G, vieux, c'est grave. Bien sûr que le point G masculin, il est là. C'est pas loin, mec. 5 cm à l'intérieur, c'est pas compliqué, c'est accessible. Et surtout, niveau orgasme, c'est autre chose que ce que la Sainte Église catholique te propose.
Yes! Oh! Yes! Yes! Yes!
Tu sais que je t'aime beaucoup.
Pour ta prime, je ferai le nécessaire.
Tu peux te la garder, monsieur le président. Achète-toi une paire de couilles avec.
Dans une étude consacrée à la féminisation des métiers judiciaires, la sociologue Anne Boisjol rapporte les propos d'une juge d'instruction qui évoque la conception que ses collègues masculins se font de leur fonction de magistrat-enquêteur.
Ils avaient une vision de l'autorité parfaitement restrictive. Autorité liée à la force, à la présence physique, à la force de la voix. Maintenant, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de monter la voix ou de taper du poing sur la table. L'efficacité peut passer par une maîtrise absolue des questions que vous posez, par une notation sur les PV absolument rigoureuse qui amène au même résultat que la crainte que vous inspirez.
Donc, être maman célibataire, c'est pas un frein, c'est même une force. Parce que quand on est en couple, il y a toujours le mari qui vient nous casser les couilles en disant « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» et tout. Quand ils voient qu'on s'épanouit et qu'on fait des choses sans eux ou qu'on fait des choses sans nos enfants et où, quand ils gardent les enfants, mais ça leur fait chier. Mais là, j'étais seule, donc il n'y avait personne pour m'embêter. Je pouvais faire ce que je voulais. C'était vraiment... C'est une force. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Oui, je ne peux pas parce que je dois garder mon enfant. » Et je dis « Mais ton mari, il ne peut pas le garder ?»« Non, mais lui, il ne peut pas. » Les hommes, ils ne peuvent pas. Sauf que quand t'es seule, eh ben, tu peux tout faire seule. C'est, franchement, c'est un avantage d'être seule.
Et je lui dis rien à mon pote. Donc je lui fais croire qu'on va en boîte de nuit. Et c'est une boîte de nuit, sauf que bah, toutes les meufs à l'intérieur, c'est des putes. Donc c'est mieux qu'une boîte de nuit. Parce que là, quoi qu'il arrive, c'est sûr.
Tu okay. vois.
Et en vrai, ce qui est très marrant, c'est que là-bas, au moment où je me retrouve un peu dans une loge parce qu'il y a une nana, elle essayait de me retirer de l'argent, donc elle essayait de me mettre bien dans un truc un peu privé. J'entends, alors que le rideau est tiré, j'entends Alexandre Kominek. Je dis quoi?
What? Avec l'accent français.
Alexandre Kominek, je dis quoi? Je tire le rideau et il y a un type qui me dit putain mec, je suis venu voir ton spectacle, j'adore tes vidéos. Et il dit est-ce qu'on peut prendre une photo? J'ai dit bah non parce qu'en fait il y a une pute et de la coke là. Donc voilà, on peut finir là-dessus. Ça sera une belle anecdote de fin.
Je voudrais que vous applaudissiez les intervenants s'il vous plaît, sans vouloir vous commander.
Vous connaissez le truc, on va pas vous refaire la chanson. Si vous avez aimé, il faut mettre les étoiles sur iTunes, etc., etc. Le truc qui nous aiderait vraiment, si on a réussi à vous décrocher un sourire, c'est que vous le fassiez écouter à un pote. Juste ça, ce serait top. Au-delà de ça, on est assez demandeurs en termes de retour, donc si vous avez trouvé des trucs plus cool que d'autres, n'hésitez pas à nous le dire.